sous nos yeux et qu'il fallait réagir très vite et être très très offensif sur la politique qui allait se dessiner de la part du gouvernement Netanyahou. Et pour moi, ça, c'est effectivement des choses qui ne nous aident pas à progresser dans la bataille sociétale, puisque les gens, quand ils regardent la télé, ils se disent « s'il y en a juste un qui est tout seul de son côté, c'est forcément lui qui a tort ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je pense que ça contribue. Et après, pour la question du RN, il y a à la fois des considérations sociopolitiques, économiques qui sont mondiales, puisque l'extrême droite triomphe dans beaucoup de pays qui ont des configurations à gauche très différentes de toute manière. Et puis, les chaînes d'information en continu et les médias ont un rôle prédominant dans la manière dont ils orchestrent le débat.
Sacha.
Comment ça se passe à la France insoumise en ce moment ? Parce que on dit que le PS est divisé, mais vous aussi,
pas
un
autant,
petit peu,
pas en deux en tout cas.
Pas autant, mais il y a les suiveurs de Jean-Luc Mélenchon ad vitam aeternam. Il y a ceux qui sont un peu plus en retrait. Il y a Ruffin d'un côté, il y a Raquel Garrido qui nous parle d'un manque de démocratie au sein du parti. Vous vous situez où, vous, par rapport à tout ça ?
Moi, je me situe à l'extrême centre. non, mais en vérité, l'ambiance, ça a pu être compliqué. On a eu des crises et c'est normal. On n'a jamais eu un aussi gros groupe parlementaire. Enfin, je veux dire, d'un coup, on devient vraiment la première force de gauche du pays qui doit porter sur ses épaules énormément de choses, y compris la NUPES, où on nous dit à nous qu'il faut être unitaire pour 10, même quand les gens vous tirent dans le dos absolument à longueur de journée depuis le lendemain des législatives. On a vu des sorties de Roussel, enfin, des sorties de Jadot, etc., sur lesquelles pendant franchement plus d'un an, on n'a rien dit. Ça a vraiment été le fait qu'ils refusent toute main tendue pour les européennes qui a vraiment déclenché cette espèce de bataille de tranchées un peu sur les réseaux sociaux que vous voyez et que je peux comprendre des fois est pénible à regarder. Mais honnêtement, nous, on a été très, très, très patients pendant
Faut
plus d'un an.
Vous coupez Twitter à Jean-Luc Mélenchon, du coup, c'est ça le message ?
Ah non, alors là, pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une grossièreté étonnante de la part de Marine Tondelier. Et franchement, on passe toujours pour les méchants parce qu'on a cette réputation, voilà, d'être le parti dur, le parti voilà, lignard, etc. Mais honnêtement, on ne les a pas attaqués, mais d'un dixième de ce qu'on s'est pris dans la tête.
Et sur le monde de
ces derniers temps, et surtout sur le conflit israélo-palestinien. Moi-même, qui suis vraiment très pro-NUPES, pas engagée à l'AFI depuis 15 ans, etc., j'en ai souffert à titre personnel de voir ce qu'on pouvait dire sur eux, et donc sur moi, puisque c'est ma famille politique. Pour ce qui est de l'ambiance, franchement, elle est meilleure que ce que laissent croire les entrefilets dans la presse, et le fait que, justement, encore une fois, les médias voulant éclater la NUPES, les médias, les télés, ils invitent toujours celui qui va aller nous taper dessus, c'était Roussel. Et d'ailleurs, depuis que Roussel, je ne sais pas si vous avez remarqué, a acté un peu sa sortie de la NUPES, il est moins invité qu'avant. Non, mais vraiment.
Non, c'est vrai.
Et donc, du coup, Raquel Garrido a été très invitée ces derniers temps parce qu'elle avait des choses à dire contre nous. Et en fait, on voit. En fait, donc, du coup, ça crée un effet grossissant d'une panique qu'il y aurait à la France insoumise, alors que globalement, on peut avoir certains désaccords stratégiques, ce qui est tout à fait normal dans n'importe quelle partie, mais qu'on est en train de les résoudre et d'avancer ensemble.
Donc, il n'y a pas de manque de démocratie interne à la France insoumise ?
Bah, écoutez, franchement, moi, je trouve que les discussions de groupe, les processus qu'on a mis en place progressivement pour discuter de pas mal d'issues stratégiques sur les élections, etc., sont plutôt de bonne tenue, qu'on a voté sur des enjeux majeurs, y compris évidemment l'affaire Quatennens, il y a eu deux votes, enfin je veux dire à bulletin secret, donc enfin on peut pas nous enfin voilà, je trouve que les processus sont en train d'avancer vers un parti qui discute beaucoup plus effectivement.
Vous avez dit les médias veulent l'explosion de la NUPES ?
Qui ça ?
Les médias, vous avez dit ?
Oui, les médias, bien sûr.
Pourquoi ?
Bah, parce que forcément, si la NUPES reste unie, on a une chance de gagner à la présidentielle et surtout aux législatives. Nous, maintenant, à ce stade, on pense que sur un coup de poker, on peut gagner le premier tour de la présidentielle, même sans NUPES, vu que notre base s'est solidifiée.
L'Union populaire.
Ce que les gens ne voient pas, en fait, c'est que les sondages donnés, par exemple, Mélenchon, il était à 8-9% en janvier 2022. Il a fini à 22%. Pendant le premier tour de la présidentielle. La veille, il était sous-sondé de 5 points. Moi, ce que j'ai découvert, et moi, j'étais comme vous, je dirais, comme la plupart des gens, je suivais ça de loin, j'y comprenais rien. J'ai fait une campagne avec la France Insoumise, justement, dans les quartiers populaires, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui sont mal sondés, sous-sondés, qui répondent pas aux sondages, les jeunes, les gens des quartiers populaires, et que tu le découvres à la fin, et que nous, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on est souvent sous-estimé dans les sondages, alors que souvent le RN l'est plus, d'ailleurs.
Ouais. Donc forcément, ça veut pas être forcément parce que vous avez dit, ouais, mais ça m'a interpellé sur un coup de poker. Je me dis, donc la gauche,
non, mais
en est là,
que,
en fait.
Parce, parce qu'on voudrait pas, parce qu'évidemment, là, cette fois, parce que cette fois, je pense que c'est possible, mais on voudrait pas quand même prendre ce risque, alors que, en 2017 et en 2022, c'est effectivement les quelques pourcents qu'on nous a pris à gauche ailleurs qui nous ont empêchés d'atteindre le deuxième tour. Donc je vais pas dire, ah ouais, enfin. Donc évidemment que ce serait mieux qu'on reste tous unis, qu'il y ait une candidature unique. Ça, c'est clair et net. Par contre, pour la législative, c'est une évidence. Vu qu'il y a 50% d'abstention, on va essayer de la faire reculer au maximum. Pour nous, c'est le combat principal à mener, ne serait-ce que parce que le programme de rupture qu'on porte, s'il n'est pas soutenu par les gens vraiment, ça ne sert à rien. Enfin, on aura trop de blocages. Mais c'est quand même... Voilà, on sait que sans ça, sans la NUPES, les législatives, on n'aurait pas la majorité, sans doute, au Parlement. Et ce serait quand même assez cocasse de se retrouver avec la présidence et un Parlement macroniste.
Oui, enfin, sachant que, ouais, en France, c'est les... progressistes qui restent chez eux, quoi.
Enfin, oui, tout à fait. Et là, notre boulot, les 3,5 années qui nous restent, là, le boulot, c'est de donner de l'espoir aux gens, hein, et de les faire participer.
Alors, à ce sujet-là, il y a un dossier sur lequel vous êtes également très mobilisé, c'est l'aide sociale à l'enfance. Oui. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle assez peu dans les médias. On parlait tout à l'heure de la commission parentalité là, qui a été lancée par... Aurore Berger, avec le succès qu'on lui connaît. Vous dénoncez notamment un manque de moyens. Qu'est-ce qui permettrait de pallier ce manque de moyens dans l'aide sociale à l'enfance? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'aide sociale à l'enfance, selon vous?
Ah bah, des investissements massifs, et tant déjà sur l'ouverture de places, parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est qu'il y a au bas mot, et là, c'est des estimations que je fais moi, puisqu'on n'a pas de chiffres nationaux, ce qui est quand même un peu... Déjà, ça relève un peu du problème, comme pour les violences policières et les condamnations des policiers au titre voilà, de la
fonction.
On n'a pas de statistiques nationales. Oui. Le ministère de la Justice, c'est quand même très, très, très problématique. Et ben sur la protection de l'enfance, c'est un peu la même chose. On n'a pas, au niveau national, le nombre des mesures non exécutées. Mmh. C'est-à-dire des mesures décidées par des juges qui ne peuvent pas être exécutés parce que faute de place, faute de moyens.
Des
mesures de placement ou en tout cas
de mise à l'abri des enfants.
Ça peut être placement en foyer dans les cas les plus graves, ça peut être placement en famille d'accueil, ça peut être assistance éducative renforcée de la part d'éducateurs qui viennent dans les maisons, dans les familles. Tout ça, en fait, au bas mot, entre 10 000 et 20 000 mesures non exécutées en France aujourd'hui. Dans mon département, la Seine-Maritime, c'est entre 300 et 500.
Est-ce donc que vous ça, déjà, qu'il faut renationaliser l'ASE?
Bah, moi, je commence à le penser parce que... Enfin, je vais finir juste sur ça. Il faut rouvrir des places, mais c'est comme pour l'hôpital. Ouvrir des lits, si vous n'avez plus personne qui veut travailler dans le secteur, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a dans les hôpitaux de ma circonscription, dans les EHPAD de ma circonscription, des postes qui sont ouverts, mais il n'y a pas de candidats. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont beaucoup trop mauvaises. Donc, le deuxième pan de ce qu'il faut faire, c'est revaloriser les salaires de la protection de l'enfance, qui sont vraiment au ras des pâquerettes. Ils ont des conditions de travail épouvantables. Évidemment, ils n'ont pas eu d'augmentation à la hauteur de l'inflation. Ils n'ont pas leurs heures sup payées. Ils ne prennent pas les congés quand ils veulent. Ils craquent, ils sont tous en arrêt maladie. C'est un peu le même phénomène que dans la santé. Ouais. Et donc c'est un choc massif d'attractivité qu'il faut faire dans ce secteur-là. Pour utiliser un langage un peu macroniste, ouais. mais là, pour le coup, pour les salaires, ce qu'on nous refuse, et je ne sais pas, c'est quoi. Ah, est-ce qu'il faut, centraliser ?
Nationaliser.
Bah, écoutez, moi, c'est vrai que je trouve ça, la décentralisation, elle a bon dos, parce qu'elle permet souvent au gouvernement de se défausser sur des collectivités territoriales qui n'ont absolument pas les mêmes moyens, ni fiscaux, ni de s'endetter que l'État. C'est vrai dans les transports aussi, parce que maintenant, en gros, en fait, ils vous disent, nous... pour les nouveaux projets de RER métropolitain, ils vont dire l'État met un tiers, la région met un tiers, et puis la métropole met un tiers. Ouais, l'État peut tout à fait mettre un tiers, il peut s'endetter à l'infini, il peut lever des impôts, etc. La région a la rigueur, et la métropole vous dit, ça ne va pas le faire, en fait. Et du coup, l'État se cache, il dit, nous, on le met le tiers, il n'y a pas de souci. Et du coup, il dit, vous avez voulu la décentralisation, maintenant, vous vous débrouillez. Et c'est une manière de se déresponsabiliser de la part du gouvernement sur la question du financement, qui est énorme. Et pour la protection de l'enfance, c'est la même chose, puisque ceux qui gèrent la protection de l'enfance, c'est les départements. Ouais. Et les départements sont excessivement mal lotis puisqu'ils ne peuvent pas lever d'impôts, quasiment pas.
Donc ils dépendent de dotations.
Voilà, c'est ça, des dotations fixes de l'État qui sont insuffisantes. Et ils touchent de l'argent sur les droits de mutation, c'est-à-dire les ventes, etc., dans les départements. Sauf que c'est contracyclique, c'est-à-dire qu'en général, quand vous avez une grosse crise sociale, en général, l'immobilier, il n'augmente pas des masses. Et donc, du coup, leur mode de financement est absolument inopérant. Et aujourd'hui, vu l'importance que relève la protection de l'enfance, quand on sait qu'environ 35% des jeunes qui étaient dans les révoltes étaient suivis par l'ASE, voire 50% en fonction des chiffres, Effectivement, se pose la question de renationaliser la politique. Ouais.
Latifa ?
Moi, je voulais revenir sur un sujet. Vous avez parlé du conflit israélo-palestinien. Mmh. Vous aviez demandé à constituer une délégation de parlementaires. Ouais. Je ne sais pas où ça en est. Et au-delà de ça, en fait, est-ce que la France, surtout sur la situation actuelle, en fait, évidemment, qui empire à Gaza, a encore de l'influence ?
A encore un poids ?
A encore de l'influence, ouais.
Bah, en tout cas, elle n'a même pas essayé d'en avoir une. Donc, on verra quand elle essaiera vraiment de peser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune sanction, ni le début d'une sanction diplomatique. Là, je ne parle même pas de sanction économique pour essayer de faire plier le gouvernement Netanyahou. Il ne se passe absolument rien. Emmanuel Macron a appelé au cessez-le-feu une seule fois devant la BBC, devant une chaîne étrangère, ce qui est quand même assez révélateur. Depuis, il y a eu rétropédalage total. Il ne s'est pas dédié lui-même, mais en tout cas, tous ses ministres ne prononcent jamais ce mot-là. Nous, on a posé une question au gouvernement.
Sur la trêve, si.
Sur la trêve, mais pas le cessez-le-feu.
C'est
vraiment toute la différence, c'est que la trêve est finie.
Une fois que la trêve a été...
Et là, ça recommence, et on en est à plus de 18 000 victimes et plus de 7 000 enfants. Ils disent que c'est un enfant toutes les 10 minutes qui meurt à Gaza aujourd'hui. C'est un bilan humain absolument effroyable. La France ne fait rien. Très clairement, la France ne fait rien. Quand Emmanuel Macron a dit cessez-le-feu, deux jours après, il y avait, ou je sais pas, quelques jours après, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui était en Israël. C'est pas ce qu'il s'est dit, mais bon... Voilà, des messages, on envoie du en même temps, on fait des messages brouillés. En fait, comment aujourd'hui, les seuls en Europe qui prennent vraiment position fermement, c'est la Belgique et l'Espagne, qui sont, eux, allés justement à Rafah, demander le cessez-le-feu sur le poste frontière. Nous, on n'y est pas allés parce que l'Égypte ne nous a pas donné l'autorisation.
D'accord. Ouais,
du coup, on est en attente. On espère qu'on aura le droit d'y aller parce qu'on voulait constituer une délégation européenne de parlementaires de gauche pour... continuer de maintenir une pression diplomatique. Et moi, j'ai redemandé des sanctions économiques contre le gouvernement il y a une semaine. Et le gouvernement de Netanyahou, je l'ai demandé au gouvernement, sans réponse.
Usul, à la dernière question. Vas-y.
D'accord, alors on continue là-dessus. Comment vous l'expliquez, cette position de Macron ? Il y a trop d'intérêts économiques, il y a trop de... Qu'est-ce qui pétrifie comme ça ? Parce que là, franchement, à terme, enfin, je veux dire, le bilan, il sera terrible. On en est... La France et ainsi que d'autres pays, les États-Unis d'abord, en sont largement complices.
Alors les États-Unis en premier lieu, tout à fait, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de la France, mais aujourd'hui vraiment le pays
c'est
qui bloque.
C'est notre position par rapport aux États-Unis aussi qui nous fige.
Sans doute, on est dans un moment très très compliqué géopolitiquement parlant, de recomposition de pas mal d'intérêts entre grandes puissances, et notamment sur les questions énergétiques. Le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine a posé des gros problèmes énergétiques à l'Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis, notamment, qu'on achète beaucoup de gaz. On achète aussi du gaz au Qatar. Donc, du coup, la question de quel va être le rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar sur le prix de l'énergie, vont-ils peser ou pas économiquement dans le conflit ? Moi, c'est la question que je me pose parce que, avant les casques bleus et l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU qui est bloqué par les États-Unis, se pose aussi la question de la guerre économique. Et aujourd'hui, les pays qui ont aussi un pouvoir énorme, c'est les pays qui produisent des énergies fossiles. Et la Banque mondiale disait que si ça dégénérait et si ces pays-là entraient, entre guillemets, dans pesaient de leur poids dans la balance, on pourrait avoir un baril de pétrole à 150 dollars. Je veux dire, un prix jamais atteint. Ça, c'est le pire scénario prévu par la Banque mondiale, ce qui veut dire une inflation généralisée. Et j'aimerais bien que Emmanuel Macron revienne devant les Français et leur explique que c'est parce qu'on allait laisser se faire massacrer 18 000 personnes et 7 000 enfants qu'on en est là en termes de prix au supermarché. Parce que ça pourrait être un des pires scénarios. La question, c'est que je ne sais pas, je ne suis pas... Malheureusement, le Parlement a très peu d'informations sur la diplomatie menée par la France. Comme vous le savez, c'est une compétence régalienne du président de la République et on nous donne très peu de réponses. Moi, j'imagine que c'est plutôt un sujet de politique intérieure. Ouais. Moi, j'imagine aujourd'hui que l'arc républicain, on l'a vu, se constitue aussi sur un relan assez clair d'islamophobie. Ça a commencé déjà par la polémique sur la baïa dès la rentrée scolaire pour faire oublier qu'il n'y avait pas assez de profs devant les élèves. On a lâché une polémique comme ça.
Table sur le fait que l'opinion publique française se fout un peu des victimes arabes.
Totalement. Voilà. Et ils tablent aussi sur le fait que ce soit CNews pour des raisons idéologiques ou que ce soit BFM TV pour des raisons... idéologique aussi, évidemment. On a un continuum, là, sur le coup, un alignement des chaînes d'information en continu du côté du gouvernement israélien, qui est quand même du jamais vu dans le cadre d'un conflit. Enfin, aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a plus de liberté d'expression sur le sujet qu'en France. On en est là. Enfin, il y a des actes, par exemple, pour prendre des exemples du cinéma. à Hollywood, ça fait rage, en fait, ce débat-là. Il y a des acteurs qui se font virer, des actrices qui se font virer, d'autres en soutien qui démissionnent, etc. On a des énormes noms du cinéma hollywoodien qui ont pris des positions pour Gaza, etc. En France, c'est quand même...
Oui, en France, il y a très peu de personnalités publiques.
Pour avoir des échos de ce milieu-là, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui ont juste peur. Peur, parce que dire quelque chose, c'est antisémite, direct. Et l'association, maintenant, a été imposée. L'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose. Et en France, le milieu culturel est terrifié, tétanisé.
Oui, on les a vus défiler avec des banderoles blanches.
Voilà, non mais sérieusement,
Après, c'est un argument, même parfois, qu'on entend dans les deux sens, parce qu'à l'inverse, il y a aussi d'autres gens qui disent qu'on est terrifiés. Enfin, ouais, il y a une...
De quoi de prendre position pour le gouvernement israélien? Que ça ferait peur aux gens?
Oui, ou de prendre position sur ce sujet-là, en fait, de manière générale, sur ce conflit, qu'il y ait la situation
d'où
à Gaza ou
pas ailleurs.
Oui, soit je suis pas assez, ouais, je suis pas assez renseignée.
Informée, ou ouais. Oui, mais ça, enfin voilà, moi ce que j'observe, c'est que ça se passe dans un autre pays. Et j'observe d'ailleurs des mouvements de soutien quand même dans des pays. Après, finalement, quand on y réfléchit, c'est logique. Par exemple, en Écosse. En Irlande. Pourquoi? Mais parce que c'est des pays qui ont été colonisés.
Il y a des histoires de décolonisation. Ouais.
Voilà, mais même aux États-Unis, on a vu des choses incroyables. Enfin, des gares occupées par des militants juifs, etc., pour la paix, etc. Enfin, on voit, y compris dans des pays vraiment inattendus, et ça se passe qu'en France. Donc en fait, c'est pas que les gens sont pas assez informés, parce que dans tous les pays, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un discours ambiant et une agressivité, et un discours pro-israélien porté par les médias et certains politiques qui est excessivement agressif et excessivement stigmatisant pour les personnes qui refusent de s'y plier. Je donnerais juste le cas de Zineb El-Razaoui. Enfin, je veux dire qu'il va d'un coup et passer de l'égérie, on va dire, d'un certain milieu à droite, à tu dégages maintenant, ça suffit, on ne te parle plus parce que tu es une horrible antisémite. Quoi.
Merci beaucoup, Alma Dufour, d'être venue sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup, je vous laisse quitter le plateau. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'était donc Alma Dufour, députée insoumise de Seine-Maritime. Chers amis, on va débriefer rapidement, on va conclure cette émission. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé une bonne émission?
C'était très chouette,
c'était chouette
pour une dernière émission d'année et de début de saison. Non, c'était trop bien. Et l'interview est toujours, comme d'hab, un peu trop courte. J'aurais bien aimé parler de la loi immigration.
Terrible.
Ouais. Ça,
oui, c'est vrai. C'est vrai.
On a pu parler de fond.
On a pu parler d'aide sociale à l'enfance et je suis assez content.
C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde.
C'est assez rare d'avoir. En fait, d'habitude, les insoumis, quand ils sont sur des plateaux, on leur saute direct à la gorge.
On t'a vu, on a un peu attendu quand même.
Je parle pas de nous. Encore que.
Non, on a fait ça poliment.
Encore que, on pourrait dire la question de et la démocratie interne à la France Insoumise, c'est un petit peu un marronnier. On pourrait aussi dire, et la démocratie interne chez LREM, on leur pose jamais la question. Ça va de soi
non,
que Macron
que c'est un
prend des décisions
majoritaire.
Tout seul dans sa chambre, et y compris qui engage le pays entier, et on dit pas, et la démocratie interne, machin.
Il n'y a pas de démocratie interne dans un parti au pouvoir, par définition.
Bah si, ça se peut. Il peut y avoir des frondeurs. Avec le PS, ça se passait aussi comme ça. Il y avait aussi...
Il n'y avait plus de démocratie au PS.
La direction du Parti Socialiste, il y avait le président, il y avait du temps de Mitterrand.
On posera la question, si tu veux, au prochain marcheur qui viendra répondre à nos questions. Ce soir,
pourquoi pas.
Je tiens à remercier Ave Pizza qui va nous régaler ce soir, parce que ce soir, au
sérieux,
il y a des pizzas. Ouais, c'est pizza ce soir.
Trop bien.
Trop bien.
C'est l'émission de Noël, donc ce soir, il y a des pizzas. Il reste très très peu d'argent, regardez, hop, dans le compteur pour déclencher le prochain palier. Le prochain palier, c'est moi qui fais la traversée de l'Atlantique sur Flight Simulator. En 33 heures de vol, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Backseat. S'abonner à Backseat, ça veut dire soutenir cette émission et ça veut dire participer à payer les salaires de toutes les personnes qui font cette émission. Merci beaucoup à vous trois. Où est-ce qu'on vous retrouve? Vous allez passer des vacances, tout ça. Toi, on te retrouve sur Blast et à la CGT.
Là, c'est quand même les vacances.
Là, c'est vacances
On va reprendre le début janvier et je crois qu'on va faire un retour. Du coup, on a un peu travaillé déjà dessus. Retour au basique, Pierre Bourdieu, tout ça. On va essayer de donner des bases de critique média aussi pour que les gens ils puissent faire ça aussi eux-mêmes chez eux.
D'accord.
Ça, ce sera en janvier. Voilà.
Très bien.
Accompagne mes pauses déjà.
Ouais.
Rhinocéros pose déjà.
Sacha, qu'est-ce que tu fais à part regarder Rhinocéros
sur France Info la semaine prochaine, jeudi 21h20. Comme d'hab.
Ok, du sport.
Et après des vacances.
Et après des vacances, tu les as bien méritées. Latifa ?
Oui, nous cette semaine, quand tu parlais de liaison, on a publié une tribune dans Le Monde avec au moins 150 élus, des personnalités, des assos pour demander 10 000 places d'hébergement supplémentaires parce qu'il y a 3 000 enfants qui dorment à la rue chaque soir dans le pays. Et ça a sauté au 49-3, c'est 10 000 places d'hébergement supplémentaires.
Ah.
Donc on parlait de la députée Garin qui se mobilisait la dernière fois aussi sur la question. je pense, la Fondation Abbé Pierre aussi la semaine dernière. Donc voilà, ça serait bien qu'il y ait ça en cadeau de Noël. Et sinon voilà, j'ai jamais vu la Harry Potter de ma vie, donc c'est mon projet de vacances.
Bah, profites-en, mais profites-en, voilà. Tu as bien raison. Regarde Harry Potter.
Non.
Mais on en reparle en janvier.
On fera un classement. J'ai un top tier d'Harry Potter.
Je crois que c'est cancel de toute façon. Qu'est-ce que vous
faites ? Non, c'est J.K. Rowling qui est cancel.
Ah, c'est lire les bouquins qui est cancel, mais regardez les films, il y a une tolérance. Chers amis, il me reste plus qu'à vous remercier. Vous aussi, le public, merci beaucoup du fond du cœur pour cette émission Backseat. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. Ciao tout le monde, bye bye.